Miaou. Le bar à...
Miaou.
Le bar à quoi?
Le bar à chat.
Le talk chat de Radio Saint-Afrique.
C'est tout à fait chat.
Miaou.
Le bar à chat.
Nouvelle émission féline de Radio Saint-Afrique.
Miaou. Cha-cha-cha.
Le bar à chat. L'émission chat, heureuse
de Radio Saint-Afrique. Salut à toutes et à tous, auditrices et auditeurs, c'est Chamanta au service du Bar à Chat dans une émission aujourd'hui très éclectique. Mes fidèles comparses sont également au micro. Bonjour mesdames.
Salut.
Salut.
Ça grogne là. C'est Chaussette à ma gauche qui grogne. Qu'est-ce qu'il y a, Chaussette?
Je suis pas contente.
Ah, Chaussette.
Pas contente.
Tu vas nous faire partager ton mécontentement?
Je suis énervée, oui. J'en dis pas plus.
D'accord.
Surprise.
Il y a Mémeille à côté aussi. Bonjour Mémeille.
Bonjour.
De quoi tu vas nous parler toi aujourd'hui?
Je vais vous parler des femmes et de la religion et des religions.
Oula, grand sujet.
Grand sujet, oui. Oui. Tant pis pour vous.
Félix.
Salut. Ben écoute, moi j'ai deux petits papiers aujourd'hui et ben c'est deux surprises en fait.
Ok, donc on est assez, assez discret sur le thème, donc il va falloir tout écouter jusqu'au bout pour ne rien rater.
Pas la tâche.
Non.
Donc, bon, en tout cas, ça promet d'être varié. Donc pour ma part, je vous parlerai d'éducation, de l'éducation démocratique pour être précise, et d'un super événement qui aura lieu cet été à Paris, Bande de Vénards, à ne surtout pas rater. Mais avant de rentrer dans le vif des sujets, je tenais à féliciter notre nouvelle ministre des droits des femmes. Hein, quoi? Ah pardon, on me dit dans l'oreillette que nous n'avons plus de ministre des droits des femmes. Alors je tiens à féliciter notre nouvelle secrétaire d'État aux droits des femmes, Marlène Schiappa. Monsieur Macron a été particulièrement inspiré de nommer cette écrivaine de talent. Elle est notamment l'auteur de l'ouvrage « Oser l'amour des rondes », dans lequel on peut trouver de délicieux conseils, comme celui d'être drôle, mais pas trop. Car la femme grosse a l'obligation d'être marrante, mais ne doit pas oublier que sa priorité doit toujours rester sa soumission totale à l'homme. Il ne faut pas non plus se goinfrer en public. On peut manger une sucette pour rappeler l'aspect phallique du geste, mais pas un sandwich qui pourrait faire penser à notre indélicate surcharge pondérale. Et puis on s'abstiendra de danser si on n'a pas pris de cours de salsa, au risque d'avoir l'air d'un tas. Je reste là pour ce bouquin, mais vous aurez compris que c'est un vrai monument du féminisme. Donc vraiment, merci Monsieur Macron d'avoir nommé Marlène Schiappa pour s'occuper de nos droits. Cette femme qui soutient ouvertement l'association masculiniste SOS Papa et qui est pro-prostitution va probablement contribuer grandement à l'avancée de l'égalité femmes-hommes dans notre pays. Voilà, et sans plus attendre, je laisse la parole à Chaussette qui grogne, qui a voilà, des choses à partager.
Moi aussi, j'avais inscrit Marlène dans ma cible, mais Marlène. J'en parlerai aussi en un peu plus cru. Donc, petite annonce avant de démarrer. Donc, attention, cette chronique n'est pas adaptée aux oreilles d'un jeune public pour cause de grossièreté, gros mots et autres joyeusetés auditives. Voilà, vous êtes prévenus. Éloignez les enfants, s'il y en a qui écoutent. Je ne suis pas forcément fière, mais j'avais besoin de le dire. Donc, voilà, comme d'hab, je voulais vous faire une chronique bien chiadée, documentée, préparée, réfléchie, sur des thèmes ou des sujets qui m'animent depuis que je fais cette émission. Et puis voilà, le quotidien s'en est mêlé, les sentiments, mes sentiments, ou plutôt mes ressentiments. Donc, chanceux auditeurs que vous êtes, s'il y en a qui écoutent, hein, vous allez assister à un fragment de ma psychothérapie en live. J'entends déjà que
yes.
Ça frémit dans les chaumières, oh les petits vénards quoi. Preuve que je suis fumasse aujourd'hui, j'ai osé griller un feu rouge, et j'ai pas souri de la matinée. En général, c'est...
Ah, ça, ouais. Oh.
Car oui, notre quotidien, en premier lieu, ne m'enchante guère. Qu'on doive encore avoir dans notre calendrier une journée contre l'homophobie, qui était mardi, et qu'au moment où je vous parle, des humains se fassent enlever, torturer, voire tuer, parfois même par des membres de leur propre famille, en Tchétchénie actuellement, mais ce coin du globe est loin d'avoir le monopole de l'horreur homophobe. Et pourquoi ? ils ont tué des enfants, ces gens-là. Ils ont torturé des poussins et diffusé les images sur YouTube. Ils ont chanté une merde musicale à l'Eurovision.
C'est clair.
Parce qu'il y a des enfoirés qui s'intéressent au contenu de ton slip et son activité. Et qui pensent que c'est pas bien normal quand même tout ça. Et que zut flûte, le sexe, c'est la procréation, nom de Dieu. Une bite, une chatte, le principe de la vis et de son écrou, et puis c'est tout. Ceux-là même qui apprécient bien cependant que Bobonne se laisse sodomiser tous les premiers dimanches du mois, même si elle a pas vraiment l'air de prendre son pied, il dit trouver du plaisir. Enfin, on s'en fout, quoi. Également que j'ai fait la découverte cette semaine du stilting, pratique hyper marrante où l'homme retire son préservatif au milieu de l'acte sans avertir sa partenaire. Des groupes en ligne existent même et encouragent les hommes à pratiquer le stilting en échangeant des techniques pour retirer discrètement le préservatif et en revendiquant cela comme un droit masculin. Les victimes étant en majorité des femmes, mais les mecs seraient également concernés. Donc pour info, il y a un Français qui a déjà été condamné en janvier de cette année à 12 mois de prison avec sursis pour viol. Ensuite, qu'on ait un gouvernement qu'on n'a pas choisi, avec des gens comme ce cher Édouard Philippe, ex-lobbyiste d'Areva, écrivain à ses heures perdues, lui aussi, qui parle notamment des poitrines des femmes, comme ça, petit extrait. Marilyn a des petits seins, normalement je n'aime pas ça. Mon truc, je l'avoue, ce serait plutôt les poitrines un peu rondes. Pas accablées et avachies, non. Pas lourdes au point d'être tombées, mais enfin quelque chose en relief. Pas les petites excroissances décharnées et hasardeuses. Les mannequins qui défilent en offrant leur verticale platitude me laissent sans voix. Une vraie poitrine, c'est rond, c'est confortable, c'est accueillant et on doit pouvoir mettre son nez au milieu avec jubilation. Merci, notre cher Premier ministre, ça va être cool. Hein,
on aimerait bien voir ses bourses. Hein.
Donc, ou encore, comme le disait Chamanta, notre fantastique nouvelle secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui elle aussi est écrit, décidément, hein, donc avec cette fameuse merde sortie en 2011, Oser l'amour des rondes, avec les conseils à deux balles pour s'épanouir dans notre société en étant ronde. Donc, t'en as dit quelques-uns. Elle dit aussi qu'il faut partager nos Twix avec nos voisins dans les transports en commun, tu vois, pour pas passer trop pour une goinfre. Ne pas prendre de dessert si personne d'autre n'en prend à votre table. Et surtout, ne pas demander de doggy bag. Ça, je sais pas pourquoi. Je pense que... On va aller récupérer
ton chien
la
mange
bouffe,
pas, hein, c'est ça voilà.
Se raser la chatte afin d'être désirable. Tester le ticket de métro, car il aurait un effet amincissant. Mais attention, pas trop. Sinon, gare à l'effet grossissant. L'intégrale est déconseillée, car apparemment, les mecs qui aiment les grosses aiment aussi les poils. C'est génial. Moi, je sens qu'on va se marrer pendant 5 ans avec cette nana-là, qui, je le rappelle une fois de plus, est notre nouvelle secrétaire d'État, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais bref, en plus de toutes ces infos hyper réjouissantes, ma pomme n'a pas la forme. Enfin, ma poire en fait. Car je vais vous parler des bonnes poires. De ma bonne poire. Alors, aucun lien avec un quelconque digestif qui vous aide à amortir les 5 heures de repas de famille du dimanche. Moi, je vous cause de la bonne poire, la truffe, le punching ball ambulant, la personne diplomate, arrangeante et compréhensive au possible, qui semble tout droit sortie d'un monde peuplé de bisounours à paillettes chevauchant des licornes arc-en-ciel défoncées au LSD. La couillonne, quoi. Car oui, aujourd'hui, j'en ai totalement conscience. Je suis une couillonne, une grosse couillonne. Et là, ce soir, eh ben, j'en ai marre de me faire tamponner la gueule par mon entourage, par des gens même que je connais à peine, mais qui ont ressenti très vite le terrain fertile que j'offrais à leurs yeux. Et là, ce soir, j'ai furieusement envie de muter, d'être une connasse, une vraie, une pimbèche, une qui s'en tape de vos problèmes, existentiels ou non, de vos soucis, petits ou gros. Je suis comme mes pneus que j'ai changés mardi, à plat, usé. J'ai failli demander au garagiste de me regonfler moi aussi pour le prix du forfait. Donc voilà, objectif misanthropie.
Girl power.
Et en fait, je vous raconte ça parce que, aussi remontée que je sois, moi, je débute dans le métier de connasse. Alors du coup, c'est moi qui ai besoin de votre aide. Si certains pouvaient me refiler des tuyaux pour être bonne à mon nouveau poste, comment trouver la bonne attitude, la parfaite posture de connasse, les mots qui tâchent, le lâcher prise, comment placer dans la conversation un « non mais en fait, je m'en branle de ce que tu racontes », comment développer un ego malsain de mammouth sous stéroïde et ne penser qu'à ma gueule, être une pure hédoniste, épicurienne, égoïste, prendre et jouir sans rendre. Comment ils font cela, ceux qui s'en tapent des autres? Chez eux, il y a des miroirs sans teint pour éviter d'affronter leurs reflets? Moi, je me retrouve bête parce que je veux bien faire dans la connasse attitude. Alors bon, déjà, tu te dis, il y a une faille parce que je devrais m'en foutre de savoir si je fais bien ou pas, quoi. Mais moi, j'ai pas les outils, visiblement. Je voulais savoir s'il y avait des stages qui existaient pour ça. Est-ce que c'est finançable par Pôle emploi ou est-ce que je peux utiliser mon DIF, peut-être? Est-ce qu'il peut y avoir des risques de rechute? Parce que merde, redevenir la brave salariée, la bonne copine sympa, la chic fille dispo, toujours open, toujours sourire. Je sais pas si j'ai vraiment envie, quoi. Je vise à être tels ceux qui se posent pas de questions ou si peu sur leurs attitudes, leurs propos, leurs habitudes, leurs conséquences et les conséquences de leur comportement ou de leurs actes. Je voudrais pouvoir consommer sans me poser la moindre question, vite et pas cher, du jetable surtout. tout. Ne pas trier mes poubelles. On paye déjà trop cher de façon, puis il y a des cons qui sont payés pour ça. Détourner le regard ou tourner les talons dès que ça me chante face à quelqu'un en difficulté. Laisser tourner ma caisse pendant que je vais faire une petite course d'un quart d'heure en ville. Cramer la planète et les gens parler debout. Bon allez, faut que je me lance. Je vais commencer par un exercice simple. Je vais aller foutre le feu à un bac de compost en rigolant très fort. C'est facile et je commence par un symbole pour moi. Après ça, je dirai ta gueule à un type dans la rue, comme ça, gratuitement. Et ensuite, j'irai crier très fort sur un gosse qui chiale. Non, attends. C'est violent quand même de crier sur un môme. C'est pas sain et pas constructif, ni pour lui, ni pour moi. Et voilà. Ça recommence en fait. Je cogite trop, je me radoucis, je suis une cause perdue. Je crois que c'est foutu. Autant assumer ma vraie nature en fait. Voilà. Donc au final, ça fait du bien de cracher ses nerfs dans le micro. Je trouve que c'est salvateur et je récidiverai sans aucun doute prochainement, dès que j'aurai une montée d'hormones. Alors d'ici là, braves gens, si nous venons à échanger ensemble une fois prochaine, tâchez de ne pas cogner trop fort s'il vous plaît. Faudrait pas que ça me laisse trop de traces quand même. Merci et bisous.
Mais où vous étiez? Je vous cherche depuis une heure.
Désolé, mais j'étais encore au self. Ils ont un très bon gratin dauphinois aujourd'hui.
Vous m'avez fait perdre une belle occasion de gagner un marché. Et vous m'avez coûté de l'argent.
Allô? Je sais pas ce qui me retient de vous foutre à la porte. Vous pouvez pas, désolé, je suis qu'un simple stagiaire, l'oubliez pas.
C'est tout ce que vous trouvez à dire.
Ouais. Allez vous faire foutre.
À balayer, merci pour tous les mecs qui sont dans les poirées. Merci pour tous ceux qui ont les mains pour à balayer.
Pour tous ceux qui ont les mains, à bas la hiérarchie. Pour tous les mecs qui sont dans les toits, la hiérarchie.
C'était
Stupéflip. Ah bah les hiérarchies, ça je pense qu'on l'a bien entendu.
Pour annoncer l'artiste.
Mais tu sais, tu demandais une piste pour apprendre à devenir une super connasse. Peut-être que tu peux t'adresser à notre nouvelle secrétaire d'État aux droits de la femme, hein, lui demander un stage, non?
Un stage au ministère, ce serait pas mal.
Voilà.
Anna, au secrétariat d'État, s'il te plaît. Ouais.
Et encore, on en a parlé que de deux, mais...
Ça fait peur.
Il y aurait des choses à dire.
Ça fait peur.
Mais merci, je pense que tu t'es défoulé pour beaucoup de personnes. Enfin, ça va être une, je sais pas, une catharsis, qu'on dit. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien.
Oui, moi aussi.
Vraiment. Merci. C'est d'utilité publique. Et c'est à Mémeille maintenant de parler d'un tout autre sujet.
Et alors là, bon, la transition est difficile.
Tu veux qu'on chante?
Tu veux que je dise des gros mots?
Bon, allez, vous savez, je vais vous parler de la religion et des femmes. Parce qu'on parle des différences entre hommes et femmes, on fait reposer surtout sur une supposée différence biologique, au-delà du fait de pouvoir enfanter différence indéniable, certes. Voilà, j'ai eu l'occasion en d'autres émissions de démontrer un certain nombre de préjugés qui voudraient condamner la femme à la soumission, à la dévalorisation, à l'invisibilité politique. Eh ben, aujourd'hui, nous allons regarder du côté des religions, où depuis quelques décennies, des femmes, des théologiennes, se livrent à une relecture des textes sacrés. Ce qui a été en partie motivé par le désir d'accession des femmes à des postes de pasteurs, de rabbins ou d'imams. Chose impensable il y a 100 ans. Et qui suscite autant de résistance chez les religieux que dans tout autre domaine professionnel. Et pour les mêmes raisons. Perdre le pouvoir. Assister à une modification des pratiques, des logiques de pensée. Bref, une remise en question des canons des différentes religions.
C'est bien, la constance règne.
Et c'est bien ce qui se passe, puisque les théologiennes re-questionnent les textes, Talmud, Ancien et Nouveau Testament, Coran, pour proposer d'autres interprétations, tout aussi légitimes, avec les mêmes procédés d'exégèse des textes, procédés qui jusqu'ici étaient pratiqués exclusivement par les hommes. Autant vous dire que c'est un très vaste sujet que je n'ai abordé que hier. Mais tant pis, je me lance. Ça va être un petit peu un survol dans le grand désordre. Mais peut-être lancer quelques pistes pour d'autres émissions éventuellement. Il va être question des religions révélées uniquement. Judaïsme, christianisme et islam. C'est le même bateau. Commençons par l'islam, avec Constance Deloire qui a lu pour nous divers textes sur le féminisme islamique, le Coran au féminin. Pourquoi, alors qu'Aïcha, la femme du prophète Mohammed, était mufti, cette fonction nous est-elle interdite aujourd'hui? Se demandent beaucoup de musulmanes. Parce que l'égalité homme-femme est inscrite dans le Coran, mais que 14 siècles de lecture exclusivement masculine nous ont volé nos droits, répondent les féministes islamiques. Depuis 20 ans, des universitaires et des militantes ont entrepris un acte de bravoure, pratiquer l'interprétation des textes musulmans originels, prérogative que se sont auto-attribués les hommes. Objectif, se débarrasser de toute la jurisprudence patriarcale accumulée au fil des générations. En 92, l'afro-américaine Amina Wadud publiait son ouvrage fondateur, Le Coran et les femmes, relire le texte sacré dans une perspective féminine. Concrètement, que font ces femmes? Elles déconstruisent. Par exemple, la notion de l'autorité des hommes sur les femmes, la kiwama, dont on nous dit qu'elle serait coranique. Faux! Répond fermement Asma Lamrabet qui dirige le Centre d'études féminines en islam. Une seule des définitions de la racine du mot kiwama a été retenue, autorité, alors qu'il y en a une trentaine d'autres possibles. Et ce mot, kiwama, n'est présent qu'une seule fois dans le Coran, alors que la co-responsabilité des époux, excusez-moi, wilaya, par exemple, apparaît fréquemment. Bref, les féministes osent invoquer l'esprit et pas seulement la lettre du Coran. Et des femmes capables de les moucher en théologie, ça fait très peur aux hommes. Alors là, il aurait fallu la musique, mais j'en ai pas trouvé.
La 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 la.
Voilà.
On peut en mettre, hein.
On peut faire
voilà. Alors maintenant, nous allons regarder du côté du catholicisme. Je vais m'en tenir aux réflexions d'une théologienne, Suzanne Tunk, qui a analysé les textes chez les apôtres Marc, Paul et Jean. Il en est résulté un bouquin intitulé « Des femmes aussi suivaient Jésus », essai d'interprétation de quelques versets des évangiles.
Les groupies.
Cette interprétation l'amène à affirmer que des femmes ont suivi Jésus au même titre que les apôtres, et peuvent être considérés comme ses disciples. D'ailleurs, à plusieurs reprises, les évangiles rapportent que Jésus lui-même a souligné la présence des femmes à ses côtés, dans le cercle de ses disciples auxquels, par là même, il les assimilait. Pourquoi alors les apôtres auxquels Jésus a confié la mission de prêcher et pêcher des âmes sont-ils tous masculins? Jésus n'avait pas le choix. Il faut, selon Suzanne Tunk, se replonger dans l'époque où a vécu Jésus, au milieu des siens juifs, où la femme était considérée comme impure. Et il aurait été contre-productif de confier à des femmes le soin de prêcher la pureté. Pourtant, Jésus, c'est semble-t-il, dingue, avait plus confiance dans les femmes pour interpréter avec justesse ses paroles. Les disciples masculins de Jésus n'ont pas saisi le sens de la révolution sociale et religieuse que leur maître apportait. Ils attendaient un Messie glorieux qui rétablirait le royaume d'Israël. Ils se disputent pour savoir qui est le plus grand, qui aura les meilleures places dans le royaume de Jésus.
On en est toujours là, hein, qui a la plus grande.
Eh oui. Le désir de pouvoir et de domination transparaît malgré eux et malgré l'enseignement de Jésus. Les femmes, elles, étaient protégées de ce souci. Aussi ont-elles pu mieux que les hommes entrevoir le sens profond du message. Elles étaient disponibles pour les révélations que Jésus leur fit à elles seules, car il avait compris que les hommes n'étaient pas en état de les recevoir. On sent entre Jésus et les femmes une sorte de connivence. Alors, vive Jésus ! Et là aussi, il aurait dû avoir de la musique.
Peut-être que Jésus était une femme, en fait.
Ah !
Non, je sais pas. Bonne question. Est-ce que c'est une hypothèse qui a été...
Ça a été évoqué.
Évoqué.
Bon, on creusera, on creusera. Bon, et on va passer au judaïsme.
Allez.
Avec une citation de la Genèse. Quatre caractères sont imputés aux femmes. Elles sont gourmandes, elles écoutent aux portes, elles sont paresseuses et jalouses. En outre,
c'est tout nous.
Elles sont loquaces et querelleuses.
Mais oui.
Oh, ils ont tellement bien cerné, quoi.
C'était la mise en bouche.
Et les hommes, pas du tout.
Je n'ai pas trouvé, en dehors des rabbins femmes, d'analyse des textes pour leur réinterprétation. Apparemment, il n'y a pas de mouvement féministe englobant la société civile. La première femme rabbin, Regina Jonas, était une Allemande. Elle fut ordonnée en 1935 par un rabbin du courant libéral. Elle avait écrit une thèse intitulée « Une femme peut-elle être un rabbin selon les sources de la Halakha, la loi juive ?» Sa conclusion était que les sources bibliques et talmudiques ne s'y opposaient pas. Bon, entre parenthèses, Régis Jonas a fini à Auschwitz en 1942, comme vous pouvez vous en douter. En France, la première rabbin, alors je n'ai pas trouvé de féminin rabbin, tout le monde dit rabbin dans les textes, bon, a été ordonnée en 1990. Depuis, il y en a deux autres, en 2008, puis en 2014. Inutile de préciser qu'elles sont rabbins au sein des mouvements juifs progressistes et honni des orthodoxes et ultra-orthodoxes. Les mouvements progressistes ont accordé aux femmes une représentativité, une responsabilité dans le domaine religieux. Les offices sont devenus mixtes et des femmes ont pu prendre la parole. Voyons ce que nous dit Delphine Horviller, l'une des trois rabbins françaises, interviewée par l'AFP. Sorti au milieu des polémiques sur le voile et le mariage pour tous, son livre, En tenue d'Ève, est une déconstruction des discours religieux fondamentalistes et une éloge du féminin. Dans le texte biblique, nous dit-elle, le masculin et le féminin ne sont pas réductibles à la simple différence des sexes. Ils expriment une complémentarité d'un autre type. Le genre féminin représente souvent la vulnérabilité, le monde de l'intériorité, de la dépendance, alors que le masculin est celui de l'autonomie et de l'extériorité. Mais chacun d'entre nous, homme ou femme, expérimente dans sa vie, tour à tour, l'autonomie, la dépendance, la force et la vulnérabilité. Chacun d'entre nous fait des expériences qui dépassent ce à quoi on voudrait le réduire, les attributs de son sexe biologique. Il y a un événement précis de la vie d'une femme, sa grossesse. À savoir, selon moi, c'est Delphine qui parle, ce moment où il lui est donné de faire en elle de la place pour un autre qu'elle. Cette possibilité biologique d'accueillir l'autre, transposée en politique, est une voie à explorer dans la résolution de conflits. Il revient aux hommes et aux femmes de l'explorer. On me pose souvent la question, les textes juifs sont-ils misogynes ? Le problème n'est pas de savoir si les religions sont misogynes, mais si leurs interprètes le sont à une époque donnée. Savoir si les érudits Rachi au XIe siècle et Maïmonide au XIIe siècle se souciaient du statut des femmes n'est pas aussi important que de voir les rabbins en 2014 s'en préoccuper. Et j'ai fini.
Oui, bah c'était riche, ouais. Merci Mamey.
Oui, ça va, c'était pas trop...
Non, non, riche d'infos, intéressant.
Ouais. Ouais, vraiment. Un petit coup de gueule, on me dit, non ? Un billet d'humeur,
un billet
plutôt.
D'humeur, ouais. Ouais.
Félix.
Ouais, je vais vous parler... moi aussi, je suis pas contente. Alors, samedi dernier, c'était le 13 mai, c'était ma journée ne rien faire. Donc, ma journée ne rien faire, la vaisselle est dans l'évier, je mange sur le pouce et mon esprit vagabonde. Ceux qui regardent la télé savent que le samedi, en début de soirée, c'est un grand désert des programmes parce que les émissions qui ont un quelconque intérêt, hein, les émissions de cul, de musique, tout ça, c'est la nuit. Donc là, je me fais chier, je zappe. Et je tombe sur une perle culturelle sur France 2, la 62e édition du concours de l'Eurovision.
Ouais. Élise déchaînée.
Alors, je me souviens avoir vu cette émission quand j'étais petite et je me dis, tiens, voyons voir ce que la musique donne dans le monde. Et j'ai tenu trois chansons. Je vais vous passer un petit extrait de Occidentalis Karma, qui est donc la chanson de l'Italie, par Francesco Gabani, et alors, dans son texte, on parle d'Hamlet, et on passe à l'homme en cage, à l'intelligence démodée, à Bouddha en file indienne, et la foule qui crie un mantra. Pendant ce temps, un gars déguisé en gorille gigote sur scène autour de lui. Voilà, voilà. Voilà, voilà, Occidentalis Karma. Je vous conseille d'aller voir la traduction des textes sur Internet, c'est édifiant.
Ils ont mis des phrases les unes à la suite des autres.
C'est pire que ça. Je te laisse découvrir. Alors, comme je pratique la relaxation quotidiennement, j'ai heureusement des seuils d'alerte qui me ramènent à mon corps, tu vois. Et donc, je m'interroge sur ce qui se passe en moi. Et là, je réalise mes doigts blanchis, crispés sur la télécommande, une nausée terrible qui me broie l'estomac. Donc, mu par un réflexe de survie, je zappe sur n'importe quoi d'autre. Et mon estomac se calme aussitôt. Et je constate que l'Eurovision n'est pas qu'un énorme concours de fric où on entend beaucoup de merde, mais c'est carrément toxique. Pourtant, il y en a eu des bons artistes, mais là, on dirait que c'est la grande foire à ce qu'il y a de plus étrange. D'ailleurs, je vais vous passer un petit extrait de Yodel Hit de Inlinka et Alex Florea, les chanteurs de la Roumanie. Accrochez-vous à vos sièges. Alors ça dit « Ne cache pas ta lumière en toi, je suis rêveur, je vais te montrer ». Je vous en dis pas plus, savourez. You never show the spark that makes you glow. You always run away, you always say no to the right things. Don't try to hide the light inside of you. Today might be the day when you make it, baby. So bring it on, bring it on, I'm a dreamer. If you don't believe you can see me, I will teach you. If you never try, you'll never be alive. You are gonna miss out on this ride. You're the lady, you're the lady, you're the lady, you're the lady, you're the lady.
Bon, alors. Attends, c'était quoi la nationalité là ?
Là, c'est la Roumanie.
Et ils chantent en anglais.
Mais ils chantent quasiment tous en anglais.
C'est dommage pour le coup.
Et oui.
Alors, l'Eurovision, quand même, pour la petite info, c'est 195 millions de personnes qui regardent le show dans pas moins de 45 pays. Il faut savoir que cette grande foire du mauvais goût coûte beaucoup, mais alors vraiment beaucoup d'argent. J'ai cherché dans différents articles, c'est pas toujours très clair, mais j'ai fait une petite moyenne des articles que j'ai trouvés. A priori, pour le pays qui l'organise, ça coûterait entre 20 et 30 millions, voire plus. Tout confondu, hein, production du show, TV, radio, logistique, etc. La participation, c'est environ 5 millions d'euros via les médias nationaux, pour chaque pays donc. Et les retombées toutes confondues, billets, diffusion, sponsoring, appels surtaxés, recettes touristiques, etc. pour étaler jusqu'à 185 millions. De quoi filer la nausée.
Ah, c'est bénéficiaire, quoi.
Voilà.
Donc, ça coûte, mais en fait...
Ça coûte, mais ça rapporte, quoi.
Il y a de l'argent public qui est investi là-dedans.
Par les médias nationaux.
Parce que c'était diffusé sur quelle chaîne?
Là, c'était France 2.
Ah oui, donc chaîne publique.
Voilà, chaîne publique. Donc, puisque vous avez été bien concentrés, on y retourne. Bon, je suis gentille parce que les morceaux durent 3 minutes, je vous en ai mis que quelques secondes. Quoi.
Mais à noter quand même que le vainqueur, enfin je ne sais pas si tu vas en parler du vainqueur.
Non, ça ne m'intéresse pas.
C'est un portugais et il chante en portugais.
Oui.
Il a chanté en portugais.
Et ce n'est pas vilain. Donc.
Non, ce n'est pas vilain.
C'est de la chansonnette.
Ouais, c'est, enfin bon.
On se posait la question l'autre jour de quels étaient leurs critères de sélection pour...
Je me la pose toujours.
Il y a un paquet de bons artistes avec plein de... Enfin, de création dans toute
l'Europe. Oui, puis même par le passé, t'as des grands artistes aussi qui sont passés.
Tout est hyper standardisé finalement. Voilà. Parce qu'on ne te mettrait pas le pays en face, tu le testes au pif, tu sais pas dire, puisque comme en plus ils chantent quasiment tous en anglais, tu sais pas dire quel pays.
De quel pays
il s'agit.
Oui.
Ça bidouille, il a dit.
Ça bidouille.
Non, mais non, pas du tout. Je suis impatiente de vous présenter mon sujet, c'est tout.
Ben voilà, moi j'ai fini.
D'ailleurs, c'est mon tour, incroyable. Ben voilà. Quelle coïncidence. Et ben moi, je vais vous parler de l'éducation. Et pas de n'importe laquelle, de l'éducation démocratique. Parce qu'il y en a qui savent, c'est mon dada. Et en fait, j'en ai pas encore parlé dans le bar à chat.
C'est vrai.
À moins que j'ai une mauvaise mémoire, mais il me semble pas en avoir parlé.
Non.
Donc c'est l'occasion. Donc qu'est-ce que c'est l'éducation démocratique ? C'est un mouvement éducatif avec la démocratie à la fois comme un but et une ressource pédagogique. L'école démocratique la plus ancienne et sans nul doute la plus connue, c'est Summerhill en Angleterre. Elle a été fondée en 1921 par A.S. Neil et existe toujours. Cette école est gérée par une assemblée générale rassemblant les élèves et les adultes. Ils ont tous le droit de vote et prennent ensemble les décisions concernant la vie quotidienne de l'établissement. Dans les années 60 et 70, de nombreuses écoles dites libres ont essaimé un peu partout dans le monde, inspirées par Summerhill. La Sudbury Valley School, fondée en 1968 à Framingham, aux États-Unis, va encore plus loin puisqu'elle n'offre pas du tout de programme d'enseignement. Pas de cours, pas de profs, pas d'emploi du temps, pas de classe. Tous les âges, enfants, adolescents, adultes, sont mélangés et tous les membres ont une égalité de droits et de devoirs. Pour vous faire un dessin, il y a les écoles à pédagogie classique, dites de premier type, dans lesquelles il y a une relation verticale entre le prof qui sait et l'élève qui ne sait pas et apprend. Ensuite, il y a les écoles à pédagogie active, comme Montessori ou Freinet par exemple.
On les appelle de deuxième type. Enfin, plus précisément, Bernard Collot les appelle de deuxième type. Ces écoles
qui est Bernard?
Voilà, Bernard Collot, c'est un enseignant de l'éducation nationale qui a beaucoup développé la pédagogie Freinet, okay, et qui a abouti à ce qu'il appelle l'école du troisième type, qui est très proche de l'éducation démocratique. Et genre, je vais en parler. Hein. Et du coup, on peut utiliser sa typologie en fait pour parler aussi de pour un peu éclairer les différences en fait entre les différents courants, okay, éducatifs. Donc on les appelle de deuxième type, Montessori, Freinet. Donc ce sont des écoles qui rendent l'enfant plus acteur de ses apprentissages en respectant ses besoins et ses rythmes. Mais on continue cependant à vouloir faire apprendre un programme précis à l'enfant. Les écoles démocratiques font partie des écoles dites de troisième type. Elles partent du postulat que l'enfant apprend tout le temps, en interaction avec les autres et son environnement. Il peut apprendre tout ce dont il a besoin pour vivre, sans forcément avoir des cours formels, tout comme il a appris à marcher ou sa langue maternelle. Il choisit lui-même ses sujets d'études et peut y consacrer le temps qu'il souhaite, en suivant son enthousiasme et ses intérêts. Dans ces écoles, il y a une gestion collective de tous les aspects de la vie quotidienne. Le conseil d'école se réunit chaque semaine. Une personne égale une voix, peu importe son âge ou son statut dans l'école. Tout le monde est à égalité. Il y a également un organe dédié à la résolution des conflits qui s'occupe de faire respecter les règles qui sont décidées collectivement dans le conseil d'école. Et cet organe de résolution des conflits, c'est ce qu'on appelle le conseil de justice dans les écoles Sudbury. Il est animé par un jury qui change régulièrement, composé d'enfants et d'adultes. Les règles de vie changent en fonction des besoins, de façon à maintenir un climat de paix dont tous les membres de l'école sont responsables. Des dizaines d'écoles s'inspirant de la Sudbury Valley School existent dorénavant dans le monde entier et elles arrivent en France à grande vitesse. La première directement inspirée de l'école Sudbury est l'école Dynamique à Paris, ouverte en septembre 2015. Il existait déjà une autre école démocratique, d'un autre type en fait qu'on appelle sociocratique. Vous pouvez aller voir sur le site pour plus de détails, là je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Donc il a été ouvert depuis quelques années à Dijon, qui s'appelle la Croisée des Chemins. En Europe, les acteurs de l'éducation démocratique sont regroupés dans un réseau européen, EDEC. La branche française a été créée fin 2015 et regroupe désormais des centaines de personnes.
Donc à présent, voilà, il y a des faits, il y a des preuves, et il y a tout simplement le bon sens, que le fait de traiter les enfants comme des personnes indépendantes est bien une révolution copernicienne. On ne peut plus considérer les enfants comme une page vierge que les adultes doivent remplir pour qu'ils puissent un jour faire leur vie. Alors à part si on veut rester dans l'obscurantisme et arrêter le progrès humain, là c'est exactement ce qu'il faudrait faire. Hein. Mais si comme moi, vous rêvez qu'un jour l'humanité devienne infiniment plus géniale qu'elle ne l'est aujourd'hui, eh bien on n'a pas le choix. On doit faire évoluer nos représentations.
La mission d'EDEC France se résume ainsi. Promouvoir une approche permettant aux enfants de faire leur propre choix concernant leurs apprentissages et tous les autres domaines de la vie. En particulier, les enfants devraient pouvoir choisir ce qu'ils font, quand, où, comment et avec qui, du moment que leurs décisions ne transgressent pas la liberté des autres de faire d'eux-mêmes. Ils devraient aussi jouir d'une part égale du pouvoir de décision sur le fonctionnement de leur organisation, notamment sur le règlement intérieur et son application, participant ainsi à y instaurer un cadre de liberté, confiance, sécurité et respect. Personnellement, je suis persuadée que ce qui se joue en ce moment est un grand tournant et qu'après l'écologie, à son tour, l'éducation est l'enjeu majeur à considérer pour notre siècle si nous voulons construire un monde de paix. Elle est malheureusement, hélas, bien souvent absente des débats politiques de fond et on se contente de réformes en fait, où on va changer en surface, notamment l'école, alors qu'en fait, il y a vraiment quelque chose de profond à faire. Et c'est ce à quoi l'éducation démocratique nous invite. Donc, les Français, et d'ailleurs autres étrangers, cet été aura lieu à Paris un événement unique en France, la conférence annuelle d'EDEC. D'EDEC Europe, du coup pas seulement la branche française. Elle durera 8 jours, du 19 au 27 août, et regroupera des dizaines et des dizaines d'acteurs de l'éducation démocratique et de membres de ces écoles. Il y aura notamment des étudiants, des encadrants et cofondateurs de Summerhill, de la Sudbury Valley School,
ah, génial,
et d'autres écoles Sudbury d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas, d'un peu partout dans le monde. C'est vraiment une occasion exceptionnelle de découvrir cette approche et de vous immerger pendant une semaine dans des ateliers et des discussions. Ce sera bilingue, donc il y aura de l'anglais et du français pour ceux qui craignent un peu l'anglais. Donc pour plus d'infos, rendez-vous sur le site edec.fr, les inscriptions sont ouvertes. Et je vous y retrouverai puisque j'y vais. Et bien sûr que j'y vais, je raterai ça pour rien au monde. On ne sait pas quand est-ce qu'un événement pareil se reproduira en France, alors franchement, saisissez cette occasion. Même si vous êtes parents, pas forcément, voilà, que vous ne travaillez pas forcément dans une école, ça concerne tout le monde en fait. Même si vous n'êtes pas parents d'ailleurs. Donc j'aurai encore énormément de choses à vous dire concernant l'éducation démocratique. Mais bon, là, il va falloir que je m'arrête. Donc il y a beaucoup de ressources que vous pouvez trouver sur Internet. Vous trouverez une carte des écoles et projets d'écoles démocratiques sur le site de DEC France. Vous verrez que c'est vraiment impressionnant la vitesse à laquelle ça se développe depuis 2 ans. C'est la folie. À croire que, comme le disait Victor Hugo, rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Ce son que vous venez d'entendre, c'est celui de 2000 billes dans une incroyable machine en bois construite par Martin Molin. Bon alors, ça se dit sûrement Martin Molin. Un jeune Suédois, musicien et inventeur. Il invente plein d'instruments de musique incroyables. Vous pouvez regarder la vidéo sur YouTube, elle est géniale. Ça s'appelle Wintergatan Marble Machine. Et en plus, dans d'autres vidéos, il vous explique toutes les étapes de fabrication, si vous voulez en fabriquer une vous-même. Génial. Et pareil pour ses différents instruments. C'est un petit génie.
Ah, génial, quoi. Ouais.
Il crée des nouveaux instruments.
Ouais.
Ouais, il crée, mais elle est incroyable cette machine. Elle est énorme, elle lui a pris un temps fou. Elle a la taille d'un piano, quoi. Et puis il tourne des manivelles, des machins, des trucs dans tous les sens, avec toutes les billes.
C'est un petit jeune issu d'une école du troisième type.
Je crois pas.
Oh.
Par contre, il y a des. Par exemple, il y a Laura Poitras qui a reçu un prix pour un documentaire. Comment ça s'appelle? Elle a fait un documentaire sur Edward Snowden.
Mon père Félicie.
Elle a reçu l'Oscar du meilleur documentaire.
Citizen 4.
C'est ça?
Ouais, je crois que c'est ça. Hein.
Elle a eu l'Oscar du meilleur documentaire, ouais. Et elle sort de la Sudbury Valley School. Et elle a jamais été. Elle a jamais eu de cours de sa vie. Voilà, par exemple.
Mais ce qui est intéressant, c'est de. Tu vois, tu parlais de Summerhill tout à l'heure, effectivement. Ça, c'est une école qui a plus de 60 ans.
Plus d'un siècle, c'est... 1921.
1921, à peu près ça siècle. Fait pas tout à fait.
Ceux qui sont nés en 21, ils n'ont pas la soixantaine actuellement. C'est parce que Félix vient de fêter ses 25 ans.
Voilà, c'est ça. Ce que je trouve absolument incroyable, c'est que on connaît donc les bénéfices de ce type d'éducation, on va dire entre guillemets. Et nous, on continue d'être obligés d'amener nos enfants dans des écoles où ils se font chier, où ils sont obligés de rester assis pendant 6 heures d'affilée à coller des gommettes, pour lesquelles on les note en plus, parce que s'ils les cotent à côté.
Alors ça évolue lentement dans l'éducation nationale, mais ça évolue. Par exemple, il y a Céline Alvarez qui a fait beaucoup de bruit cette année, là, à la rentrée, qui a fait des expérimentations dans une classe à Gennevilliers. Elle, c'était plus sur du Montessori. Elle a publié un bouquin qui s'appelle Les lois naturelles de l'enfant, que je peux prêter si vous voulez. Et qui est intéressant, et où du coup, il y a plein d'instituts de l'éducation nationale qui se forment à ça, qui essayent de faire bouger la machine de l'intérieur. Et à côté, tout ce mouvement d'éducation démocratique et d'autres écoles alternatives de l'extérieur, en fait, et tous ensemble, on essaye de faire changer les choses.
Par rapport à tout ce qui existe au niveau de l'éducation, enfin, tout type d'écoles plutôt classiques, on est capable de donner un pourcentage de ce que ça représente, ces écoles-là, par rapport aux
en
écoles
France
classiques, ouais.
Oh, c'est très, très petit.
C'est très peu.
Ça démarre, ouais. Ça fait 2 ans, là, en plus. Donc, ouais. c'est très, très faible. Hein.
Ouais, le temps que la dynamique se mette en marche et que les gens... sache qu'il y a un autre cadre que le cadre dans lequel ils évoluent, puis osent sortir de leur cadre confortable.
Exactement.
Pour aller vers
Et ce qui a contribué temps. Aussi à cet essor des écoles démocratiques, c'est le documentaire Être et devenir.
Oui.
Si vous connaissez.
Très bien.
Qui est très, très, bien, très bien, qui lui concerne par contre l'instruction en famille. Parce que beaucoup de gens pensent que l'école est obligatoire, et en fait l'école n'est pas obligatoire
non.
en France.
Non,
c'est l'instruction qui est obligatoire.
Tout
et vous
fait.
Pouvez instruire en famille. Et il y en a qui font l'école à la maison, donc ils font des cours à la maison, mais il y en a qui font rien du tout. Et c'est ça qui est dans Être et Devenir, si on regarde, mais qu'est-ce qui se passe quand les enfants, on leur fait pas de cours.
On leur fiche la paix.
Et juste ils vivent leur vie, et qu'est-ce qu'ils deviennent, quoi. Et c'est dans le monde entier, et c'est passionnant ce documentaire.
Alors attends, tu dis que l'instruction est obligatoire, mais alors du coup, tu dois quand même quoi vis-à-vis du rectorat, enfin
il y a une inspection tous les ans par un inspecteur de l'académie, ouais.
Et qui évalue quoi, le niveau de l'enfant par rapport à des standards?
Par rapport au socle commun de connaissances et de compétences.
C'est ça.
Et on a une obligation de moyens, mais pas de résultats. Donc il faut quand même donner aux enfants les moyens de pouvoir atteindre toutes ces compétences et connaissances.
Ok.
Mais après, si on réussit pas, c'est comme l'école classique, elle réussit pas forcément. Donc
la preuve.
Ouais, peu. Ouais.
Voilà.
Eh ben,
merci bien.
Donc, tout le monde à Paris cet été pour la conférence tech.
On va faire un bus.
Un bus de l'Aveyron, ouais.
Un bus de l'Aveyron.
Ah, on peut covoiturer d'ailleurs, j'irai peut-être en covoiturage.
À voir. Est-ce que je vous partage ma petite perle?
Eh ben oui, vas-y.
Ma dernière petite perle.
C'est une petite perle qui est tombée de la machine.
Est-ce
de
que
Martin
ça yodel? Est-ce que c'est roumain et est-ce que ça yodel?
Non, c'est pas roumain, c'est français et franchement, ça décoiffe. Hein. C'est très très bien. Eh ben, en route.
La préhistoire du futur de Benjamin Habitant.
Alors, Benjamin Habitant écrit pour l'émission La vie moderne sur France Culture. C'est 6 minutes de fiction délirante. La semaine du 8 au 12 mai, c'était la saison 2 de La préhistoire du futur de Benjamin Habitant. Alors, La préhistoire du futur est une fresque d'anticipation épique et grandiose qui recommence à chaque fois en 2017 et ne finit jamais, dit le pitch. 5 épisodes et bourrifant dans la semaine. Alors, dans le désordre, l'invasion peu spectaculaire des extraterrestres. Le grand registre des déchets que je te conseille, qui est génial. L'univers simulé et le mot cocon. Et puis, le forfait le toute drogue. Donc moi, ce soir, je vous ai fait un petit montage sonore du forfait toute drogue. Le pitch, il y a bien longtemps, en 2017, on légalisait enfin toutes les drogues.
Il y a bien longtemps, en 2017,
on légalisa enfin toutes les drogues.
Je vais prendre... Il y a quoi dans le roulé à la pistache ?
Crème à la pistache, LSD, pépites de chocolat.
D'accord, je vais en prendre 2.
Un Seresta pour aller avec ?
Non, ce sera tout.
La production était encadrée.
La vente était taxée et régulée.
Ah ouais, on sent bien la lessive.
Ouais, on a un petit goût de calgon. Elle manque de vermifuge pour chevaux, ça dit.
Ouais, c'est vrai.
Pardon, vous auriez pas une clope ?
Désolé, on fume pas.
La prise en charge de toute la chaîne de production par des laboratoires expérimentés
aboutit à la mise sur le marché de produits sûrs
possédant de vraies qualités gustatives.
Madame, monsieur, désirez-vous la carte des weed ?
Non merci, on va partager un gramme de vertige du cachemire.
Excellent choix.
Avec 2 verres d'eau, s'il vous plaît.
La consommation mieux encadrée des drogues récréatives représentait un marché colossal.
Oh là là ! Bientôt les fêtes et mon dealer est injoignable. Ma femme va me tuer.
Pas de panique. En ce moment, le gramme de cocaïne est à 45 euros chez Carrefour.
45 euros ? Chérie, sors les pailles !
Offre valable dans les magasins participants.
Cet engouement de toute la société pour les psychotropes
n'allait pas sans engendrer quelques problèmes sanitaires.
Ça va bien faire, Enzo, ça va faire 1 semaine que t'es perché, maintenant tu vas aller à l'infirmerie. Non mais Enzo, c'est du grand n'importe quoi là. Ah, aïe, mais oh, aïe.
La loi autorisant de se déplacer en volant d'un immeuble à l'autre vient d'être votée sous LSD par le Sénat.
C'était du grand n'importe quoi.
Bientôt, des voix s'élevèrent au sein de la société civile.
L'opium est le nouvel opium du peuple.
Oui, bonjour madame, quelles sont vos revendications ?
C'est très simple, nous demandons l'interdiction de toutes les substances qui entraînent une dépendance. Bon, à part l'alcool, et la cigarette, et la nourriture, et l'eau, et l'air.
Et les caisses du McDo !
Parfaitement ! Ouais !
En quelques années,
les grands laboratoires avaient triplé leur chiffre d'affaires.
Bientôt, ils contrôlèrent une grande partie du secteur alimentaire.
Big Pharma, bonjour, quelle est votre commande ?
2 minutes Tramadol et des chips à la codéine.
Oui, avancez s'il vous plaît.
Merci.
À partir de 2034, les données biochimiques de chaque individu étaient transmises toutes les secondes.
Via de petits bracelets.
À des serveurs qui calculaient les dosages des produits.
On arriva ainsi à concevoir le forfait toute drogue
à partir de 29 euros par mois.
Bonjour, avancez s'il vous plaît.
Merci. J'espère qu'ils vont nous filer des chips, je crois que je suis en manque.
Tu sais, si c'est le cas, ils le savent.
Oui, c'est vrai.
Peu à peu, les labos maîtrisèrent aussi l'eau potable,
puis l'atmosphère.
Je me sens tellement plus heureuse depuis que des robots nanoscopiques diffusent automatiquement toutes les heures des substances chimiques indéterminées dans mes veines.
Oui, moi aussi. Voilà, je sais pas ce que j'ai un coup de barre.
Oui, moi aussi. Ah non, attends, ça va mieux.
Oui, moi aussi. Je t'aime.
Oui, moi aussi.
La préhistoire du futur vous est offerte par notre partenaire Sanofi Adventis. Votre dose de 11h du matin est en cours de téléchargement dans votre système sanguin. Merci d'inspirer à fond pour faciliter la diffusion. Très bonne montée et à demain.
Donc on espère bien fort. Donc on pourrait imaginer que l'esprit fertile de Benjamin Habitant s'est inspiré des projets des différents candidats aux élections, ou pas. On fait comme on veut.
C'était le projet.
Voilà, donc si tu écoutes un petit peu toute la semaine, en boucle, si tu veux, tu vas reconnaître des choses, quoi. Donc Benjamin Habitant, pour parler de lui, est comédien, metteur en scène de sa compagnie Le Théâtre de la Démesure. Et il écrit et réalise des fictions radiophoniques pour France Culture et France Inter. Donc on peut entendre ses délicieux délires sur franceculture.fr. Et sincèrement, je vous conseille d'aller écouter, et notamment le sketch sur les déchets. C'est succulent, vraiment succulent.
Ouais, voilà. Enfin là, pour ce qui en concerne...
Police.
Non, mais c'est c'est à peine, ce que tu viens de nous raconter, c'est à peine de la fiction. Hein.
Je sais pas.
Heureusement, encore quand même un peu.
Encore un peu.
Ouais, en fait, mais bon,
moi, je vous conseille d'aller l'écouter parce que là, je vous ai fait un petit montage, donc j'ai enlevé certaines choses. Mmh. Mais oui, effectivement. Toujours se demander qu'est-ce qui est socialement possible, et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui nous mettrait en danger, qu'est-ce qui ne l'est pas.
Mais c'est énorme, tu dis c'est 5 émissions par semaine ?
Non, c'est des petites brèves si tu veux, c'est des nouvelles en fait, donc à chaque jour.
Ah, mais il y en a une chaque jour.
T'as une nouvelle chaque jour. Voilà, donc ça fait 5 jours.
Bah oui, c'est bien ce que
oui, ça fait 5 nouvelles, mais ça fait 2-6 minutes, quoi. C'est pas...
Ah, mais il y a du taf.
Ah, c'est du boulot. Hein, là, c'est la deuxième saison. Ouais. Oui, il y a du boulot. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse des choses comme ça.
On va avoir du boulot.
Ouais, c'est intéressant.
Mais vas-y, lâche-toi.
Mais c'est vachement intéressant.
Ouais, carrément. Hein.
Voilà.
Bien. Quelque chose à dire avant la clôture de cette émission ?
Moi, je trouve que c'était bien éclectique. C'était génial. Je me suis régalée. Merci, mesdames.
Et oui, c'était varié.
Merci, messieurs.
Ça va mieux.
Merci Clément, notre...
Merci Clément.
Avec grand plaisir.
Ouais, t'étais bien dissipé ce soir, mais...
J'étais dissipé, ouais.
Quelque chose à dire Clément sur l'émission, des questions,
bah,
des
réactions. Écoutez les filles, bravo, j'adore ce que vous faites.
Merci, on a nos fans.
Ah,
nos
fans. Et en direct, c'est génial.
C'est vrai. Et dire aussi qu'on va peut-être, il y a peut-être bientôt des gens qui vont venir grossir nos rangs.
Oui,
on
ça
essaye
serait,
toujours
ça serait
de,
bien.
De recruter ponctuellement ou
Et puis s'il y en a d'autres qui veulent, quoi.
Exactement.
Et oui, viendez.
Hommes comme femmes d'ailleurs, on n'est pas sectaire, voire transgenre. Enfin.
Ouais. Et pas que le bar à chatte. D'ailleurs, toute la radio est ouverte.
Évidemment.
Poussez
et
la
d'ailleurs,
porte.
Dans quelques minutes, ne ratez pas le cul d'église.
Ne ratez pas le cul d'église.
Exactement. Ils sont là. Ils frétillent.
Ouais.
À vous, les gars.
Du coup, oui. Alors, un petit mot quand même à dire avant de conclure. Non, c'est notre deuxième direct. Donc, voilà, on se rôde encore au direct. Ouais. Mais c'est quand même super sympa.
Ouais.
Ça rajoute un peu d'adrénaline en plus.
C'est vrai.
Donc, merci les chattes pour vos super sujets, pour cette émission encore passionnante. Encore une fois, un grand merci à Clément pour la technique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'émission est diffusée le premier vendredi du mois, ainsi que le mardi suivant à 11h et le jeudi qui suit à 16h. Vous pouvez aussi retrouver l'émission en podcast sur le site radiosaintafrique.com dans la rubrique émission mensuelle culturelle.
Faites du clic.
Faites du clic. D'ailleurs, les filles, allez renseigner.
Oui. Salut, au revoir tout le monde, à bientôt.
Ciao.
Mao.
Oh, j'ai cru voir un romain.
Chalor.
Mao. Mao, 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 mao.
Le bar à...
Mao.
Le bar à quoi ?
Le bar à chat.
Le talk chat de Radio Saint-Afrique.
C'est tout à fait chat.
Mao.
Le bar à chat.
Le bar à chat.
Nouvelle émission féline de Radio Saint-Afrique.
Mao.
Cha-cha-cha.
Qu'est-ce qu'on dit ?
Le bar à chat, l'émission chat heureuse
de Radio Saint-Afrique.
Miaou.